VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia avec vous, heureux de vous présenter cette édition de 18h30 au temps universel. On est vendredi 7 octobre 2022. Voici les titres. Affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali, le président ivoirien Alassane Ouattara révèle que les choses évoluent bien. Les derniers soldats français qui étaient encore en Centrafrique vont quitter ce pays d'ici la fin de l'année. Élections législatives au Lesotho, ce vendredi, plus de 50 partis politiques ont pris part au scrutin. Le prix Nobel de la paix décerné à 3 organisations de la société civile en Ukraine, en Russie et au Bélarus. Une décision du comité Nobel saluée par les Occidentaux et critiquée en Russie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara a déclaré ce vendredi à Abidjan que les choses évoluent bien en vue d'une libération prochaine de 46 soldats de son pays détenus au Mali depuis bientôt 3 mois. Le point avec Rosine Munezero.
Ces mots d'optimisme du président ivoirien ont été prononcés à l'issue d'une rencontre à Abidjan avec son homologue bissau-guinéen Oumaro Sissoko Embalo, président de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CDAO. Les choses évoluent bien, nous pensons que très rapidement nous aurons sans doute un heureux aboutissement, a dit le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui avait rencontré la veille le président togolais Fornia Simbe, médiateur dans le dossier de ces soldats arrêtés le 10 juillet à Bamako à leur arrivée à l'aéroport. Abidjan et l'ONU affirment qu'ils devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali, mais les autorités maliennes les considèrent comme des mercenaires venus attenter à la sûreté de l'État. Il y a 8 jours, une mission de haut niveau dépêchée au Mali par la CDAO a rencontré le dirigeant malien, le colonel Assimi Goïta, pour tenter de dénouer la crise diplomatique avec la Côte d'Ivoire.
Les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour obtenir des informations sur l'attaque djihadiste de 2017 à Tongo Tongo, dans l'ouest du Niger, au cours de laquelle 4 soldats américains avaient été tués. C'est ce qu'a appris ce vendredi l'AFP. Le 4 octobre 2017, 9 soldats, 4 Américains et 5 Nigériens, avaient été tués dans une embuscade tendue par les djihadistes près de Tongo Tongo, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Mali. Cette attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Les 130 derniers militaires français déployés en Centrafrique vont quitter le pays d'ici à la fin de l'année. Le départ des troupes françaises de Bangui devrait intervenir dans les prochaines semaines et sera achevé d'ici à la mi-décembre. Le point avec Jean-Roger Plon.
Le contingent français stationné à l'aéroport de Bangui assurait jusque-là la logistique pour les militaires de la mission de formation de l'Union européenne et d'un contingent de la mission des Nations unies. Ce sont les derniers éléments de l'opération Sangaris qui comptait 1600 hommes et qui a plié bagages en 2016. Paris avait décidé par la suite à l'été 2021 de suspendre sa coopération militaire avec Bangui, jugé complice d'une campagne anti-française téléguidée par la Russie. La France accuse régulièrement ses paramilitaires de commettre des exactions contre les civils et d'avoir instauré un régime de prédation des ressources de la Centrafrique. À la faveur du vide créé par le départ du plus gros des troupes françaises, Moscou a dépêché à Bangui des instructeurs militaires en 2018, puis des centaines de paramilitaires en 2020, à la demande de Bangui, confronté à une rébellion menaçante. Ce départ annoncé des derniers soldats français de Centrafrique intervient quelques semaines après la sortie du Mali des militaires français au terme du divorce consommé entre Paris et Bamako, qui a également choisi d'avoir recours au service d'instructeurs russes.
L'ancien président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir refusé de répondre à une commission enquêtant sur la corruption, a fini de purger sa peine ce vendredi. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Justice. Son incarcération en juillet 2021 avait déclenché une vague de violence et pillages dans le pays, faisant environ 350 morts. 2 mois après avoir entamé sa peine, Jacob Zuma avait été libéré pour raison de santé et placé sous contrôle judiciaire. En décembre, un tribunal avait contesté sa libération pour raison médicale, lui ordonnant de retourner en prison. Il avait fait appel et la décision n'était pas encore connue ce vendredi à l'expiration de sa peine. Les habitants de Lesotho ont voté ce vendredi pour élire leurs députés dans un contexte marqué par l'instabilité politique depuis 5 ans. Plus de 50 partis sont en liste, dont ABC, qui dirige depuis 2017 ce pays d'Afrique australe de 2 200 000 habitants. Le point avec Nanit Talani.
Ouvert dès l'aube, les bureaux devaient fermer à 15h00 temps universel. Les résultats définitifs ne devraient pas être annoncés avant la semaine prochaine. La Convention de tous les Basotho, ABC, et le Congrès démocratique, DC, les deux plus grands partis qui dominent la vie politique du pays, sont dans une lutte acharnée pour contrôler le Parlement. Candidat de l'ABC majoritaire et au pouvoir, Kakou Kabi, 49 ans, se dit confiant dans une victoire haut la main. Le DC est représenté par Matibeli Mokotu. Parmi les outsiders figure le favori Sam Matekane, un homme d'affaires de 64 ans qui a fait fortune dans les mines de diamants. Considéré comme l'homme le plus riche du Lesotho, il affirme avoir pour ambition de sauver son pays. L'actuel premier ministre Mokotsi Maduro, 60 ans, en poste depuis 2020, ne brigue pas de mandat. N'importe lequel de ses partis peut l'emporter, mais pas avec assez de sièges pour gouverner seul. Une autre coalition est probable et les risques d'instabilité demeurent, explique Motlamele Kapa, enseignant à la National University of Lesotho.
Les autorités burundaises annoncent la réouverture des bureaux de change plus de 2 ans après leur fermeture décidée par la Banque centrale pour lutter contre la dépréciation du franc burundais. La Banque centrale du Burundi avait annoncé la fermeture définitive le 15 février 2020 de tous les bureaux de change sanctionnés pour ne pas avoir respecté une réglementation limitant à 15% leur marge sur les opérations. Le pouvoir avait alors mené une répression contre les cambistes qui n'appliquaient pas le taux au fixe.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le prix Nobel de la paix 2022 a été attribué conjointement aux militants des droits de l'homme biélorusse Aless Bialystsky et aux ONG de défense des droits humains russes Memorial et ukrainienne Centre pour les libertés civiles. Les trois lauréats illustrent l'importance de la société civile pour la paix et la démocratie. Le point avec Eric Manerekiza.
Aless Viktorovich Bialystsky, 60 ans, a fondé en 1966 à Minsk le Centre des droits de l'homme Viasna, Printemps, principale organisation de défense des droits de l'homme en Biélorussie. Interpellé en juillet 2021 avec de nombreux autres opposants, il est actuellement toujours incarcéré dans des conditions inhumaines, selon ses soutiens, et le comité Nobel a appelé à sa libération. Memorial International, la plus ancienne ONG de défense des droits humains en Russie, dissoute en décembre dernier avec deux de ses branches par la justice russe, a considéré ce Nobel comme un encouragement à poursuivre ses activités. Fondée en 1989 par des dissidents, Memorial s'est d'abord attaché à documenter les crimes de l'ère stalinienne et s'est plus récemment exprimé contre la répression des opposants sous Vladimir Poutine. Quant au Centre ukrainien pour les libertés civiles, il a été récompensé pour ses efforts en vue d'identifier et de documenter les crimes de guerre russes contre la population civile ukrainienne. En distinguant ces trois lauréats, le comité Nobel récompense ces trois remarquables défenseurs des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins, a souligné la présidente du comité Nobel norvégien.
Les États-Unis ont annoncé ce vendredi des sanctions économiques contre 2 personnes et 3 entités accusées d'avoir participé à l'exportation illégale de pétrole vers la Corée du Nord. Dans un communiqué, le département du Trésor américain estime que leurs actes soutiennent directement le développement du programme d'armement de la Corée du Nord et de son armée. Ces sanctions visent à empêcher le pays de contourner les sanctions des Nations Unies restreignant l'importation de produits pétroliers, ajoute le communiqué. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a pour la première fois établi ce vendredi un mandat de rapporteur spécial pour la Russie. C'est pour surveiller la répression des opposants en Russie, comme le réclamaient les Occidentaux. Le texte qui était proposé par une grande partie des pays membres de l'Union européenne a été adopté avec 17 voix pour. 24 pays se sont abstenus et 6 ont voté contre, dont la Chine. Et puis les dirigeants de l'Union européenne réunis en sommet ce vendredi à Prague ont esquissé les grandes lignes d'une réponse commune contre la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Charles Michel, le président du Conseil, a estimé que les 27 partagent une ambition commune de faire baisser les prix des ressources énergétiques, mais ils sont divisés sur les moyens et il y a urgence à trouver des compromis qui allègent donc cette situation. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco, présentée ce soir par Nanit Talani.
Le Fonds monétaire international affirme avoir conclu un accord avec Kigali pour une facilité de 310 millions de dollars pour soutenir les réformes économiques du Rwanda et l'aider à renforcer sa résilience face au changement climatique. Le produit intérieur brut rwandais devrait croître de 6,8% en 2022 contre une prévision de 6%, ajoute le FMI. Au Nigeria, le déficit budgétaire atteindra 4,78% en 2023, alors que les dépenses se fixeront à 47,4 milliards de dollars, soit une hausse de 18,4% par rapport à cette année, affirme ce vendredi le président Muhammadu Buhari dans un discours sur le budget. Le déficit sera financé par de nouveaux emprunts provenant de la privatisation des entreprises publiques. Abuja estime que la suppression des subventions au carburant est l'une des mesures essentielles pour réduire les dépenses. Et pour terminer, l'Algérie qui signale une épidémie de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène dans un élevage de volailles dans le nord du pays. Le virus a tué 35 800 oiseaux dans une ferme du district de Médéa dans le sud d'Alger et les 1 700 oiseaux restants du troupeau ont été abattus, annonce ce vendredi l'Organisation mondiale de la santé animale basée à Paris en France.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Abdourahman, bonsoir à tous.
Des promesses de bonus pour les joueurs du club nigérian Rivers United en Ligue des Champions CAF.
Oui, les joueurs du Rivers United empocheront 40 000 dollars chacun s'ils battent le Wydad de Casablanca tenant du titre de la Ligue des Champions. C'est la motivation financière de la direction du club nigérian pour booster les joueurs à se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Les champions du Nigeria accueillent le Wydad Casablanca du Maroc lors du match aller des éliminatoires ce dimanche à Port Harcourt. Le gouverneur de l'état de Rivers avait récompensé chaque joueur avec 20 000 dollars pour avoir remporté le championnat national en juin pour la première fois de leur histoire.
Le Mondial Qatar 2022 sera sûrement le dernier pour Lionel Messi.
La star du football argentin a déclaré que le prochain Mondial du 20 novembre au 18 décembre au Qatar serait sûrement le dernier de sa carrière. C'est dans un entretien accordé à la chaîne sportive ESPN. Le capitaine de l'Albi Céleste, 35 ans, a encore admis qu'il y a de l'anxiété et de la nervosité à l'approche du Mondial. Concernant l'équipe d'Argentine, Lionel Messi estime qu'elle est actuellement dans une bonne passe. Notre équipe est très forte, mais tout peut arriver. Tous les matchs sont extrêmement difficiles. Ce ne sont pas toujours les favoris qui gagnent et les choses ne se passent pas toujours comme prévu, ajoute Messi. Évoquant l'après-football, la Pulga laissait la porte ouverte à toute éventualité. Je ne vais pas devenir entraîneur, mais Zinedine Zidane avait dit la même chose avant de le devenir puis de remporter la Ligue des Champions, conclut Lionel Messi.
Megan Rapinoe veut des changements après le scandale des abus sexuels dans le football féminin américain.
La star du football américain a appelé à des changements dans la gestion du championnat des États-Unis après ce qu'elle qualifie d'horrifiante révélation d'abus sexuels et de maltraitance. C'est difficile pour les joueuses. Certaines qui ont joué avec ces clubs et ces entraîneurs ont vraisemblablement été abusées d'une manière ou d'une autre dans des contextes différents. Cela peut réveiller des traumatismes, estime Megan Rapinoe. Une enquête a révélé que plus de 200 joueuses du championnat de football féminin américain, dont certaines titulaires dans l'équipe nationale, ont été victimes d'abus et d'agressions sexuelles.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
C'est Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Washington exhorte les autorités du Libéria à lancer des poursuites judiciaires contre les responsables de crimes de guerre pendant la guerre civile qui a déchiré le pays de 1989 à 2003, faisant 250 000 morts. Jusqu'à présent, aucun responsable n'a été poursuivi ni condamné au Libéria pour ces crimes. Quelques procès ont eu lieu ou sont en attente en Europe et aux États-Unis, mais de nombreuses personnalités impliquées dans le conflit occupent toujours des postes économiques et politiques importants au Libéria. Pour une analyse, Nani Talani a joint depuis New York Elise Kepler, directrice adjointe d'Amnesty International.
Je pense que c'est très important que les États-Unis discutent la nécessité d'avoir les procès pour les crimes les plus graves au Libéria. Les crimes étaient extrêmement brutaux. Il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il y avait des meurtres, des viols. Et je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'il y avait beaucoup d'années pendant qu'il y a de l'impunité au Libéria. Et les États-Unis sont un partenaire très important pour Libéria. Et c'est clair que les États-Unis pensent que c'est très important qu'il y aura de la justice pour ces crimes.
Quelle est l'importance de ces procès une vingtaine d'années après la guerre?
Il y a des personnes toujours qui disent « Oh, c'était il y a longtemps, ce n'est pas important maintenant. » Mais c'est clair pour moi, j'ai discuté avec des gens de Libéria beaucoup de fois. Et c'est clair que les gens veulent la justice. Ils veulent de la justice et ils ne veulent pas de l'impunité. Et tu penses que c'est absolument un problème qu'il y a des gens qui ont accusé, impliqué dans les crimes et il n'y a pas de procès. Ce n'est pas acceptable d'avoir des situations avec des crimes extrêmement graves comme les viols, les massacres, les choses comme ça dans les guerres civiles et pas d'avoir la responsabilité pour ces gens. Ce n'est pas le passé. L'impunité, c'est une question de présent.
Pourquoi le Libéria lui-même n'arrive pas à juger ses criminels jusqu'à présent?
Je pense que c'est important de discuter avec des représentants du gouvernement du Libéria parce qu'il y avait des promesses, il y avait des exclamations, descriptions, dédications de rendre la justice, mais en fait, on ne voit pas le vrai progrès. Donc, nous pensons que c'est absolument important que le président George Weah qui discute avec les partenaires internationaux de Libéria, comme les États-Unis, comme les Nations Unies, comme la France, comme l'Union européenne, pour établir une cour pénale au Libéria qui peut juger des crimes. Et nous savons que les États-Unis, comme Ambassador Van Schaik a dit quand elle était au Libéria, que les États-Unis peuvent donner l'assistance technique, l'assistance avec l'expertise, l'assistance financière qui peut soutenir le gouvernement de Libéria d'avoir des procès qui sont équitables, qui sont crédibles. Ce n'est pas nécessaire pour Libéria de le faire seul. On peut soutenir Libéria pour avoir de justice, mais on ne peut pas éviter la justice maintenant parce que c'est vraiment quelque chose qui manque au Libéria.
C'était Elise Kepler, directrice adjointe d'Amnesty International.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, les chauffeurs routiers observent une journée et demie de deuil après l'attaque par des djihadistes d'un convoi de ravitaillement à Gaskindé, dans le nord du pays. L'attaque revendiquée par Al-Qaïda a officiellement fait 37 victimes selon l'armée. 70 conducteurs de camions restent disparus selon leur syndicat.
Le convoi a été en route pour Djibo, une localité encerclée par les groupes djihadistes. Ayant échappé au massacre, un rescapé témoigne à son retour à Ouagadougou. Yacouba Ouitraogo.
Merci, après.
Sa voix forte et assurée devient fluette à l'heure de raconter ce qu'il s'est passé à Gaskindé, dans le nord du Burkina Faso, le 26 septembre. Aziz, dont le prénom a été modifié pour sa sécurité, était au volant de son camion chargé de vivres à l'arrière d'un convoi de 207 véhicules quand les tirs ont crépité.
J'ai eu peur, mais après c'est passé. Mais j'ai eu peur parce que j'ai eu beaucoup de mes collègues que je ne vois pas, et d'autres sont morts.
Rabo Brahima, président de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina.
Ce qu'on a vu à un moment donné, c'était sauf qui peut. C'était de la bandade, hein. Chacun se cherchait. Bon, on était sous couvert des militaires, mais si les militaires eux-mêmes s'enfuyaient, donc il faudrait comprendre ça comme ça. C'est-à-dire que soit ils n'avaient pas le matériel adéquat pour nous sauver. Vraiment, on se pose beaucoup de questions.
Seuls 70 des 207 camions ont pu être sauvés, selon M. Rabo. Les véhicules étaient partis de Ouagadougou à destination de Djibo, l'une des principales villes du Nord, soumise depuis 18 mois à un blocus djihadiste. Cet axe Ouaga-Djibo, le consultant en sécurité Mahamadou Savadogo l'appelle l'axe de la mort.
Moi, je l'appelle l'axe de la mort parce que c'est un axe qui est entièrement contrôlé par les groupes armés terroristes. À partir de Kongo-Bourzanga, Bourzanga-Djibo est entièrement contrôlé par les groupes armés terroristes. Alors, donc, envoyer une telle escorte avec un nombre élevé de camions à Djibo, effectivement, c'était vraiment un haut risque. Et aussi, c'était aussi envoyer les hommes à l'abattoir.
Énième attaque dans une région meurtrie par la violence djihadiste, Gaskindé est un nouveau symbole de l'impuissance des autorités burkinabées à contrôler leur campagne reculée. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba avait promis lors de son coup d'État en janvier de reprendre l'ascendant sur les djihadistes. Mahamadou Savadogo, consultant en sécurité.
Le langage qui était tenu par le MPSR au temps de Damiba était que l'armée montait en puissance et que tout va bien. Et qu'ils étaient en mesure effectivement de continuer à ravitailler les zones qui étaient encerclées. Et là, la population des villes, ils croyaient. Cette attaque-là a été un déclic. C'est-à-dire, ça a réveillé encore les populations des villes qui se sont rendues compte que, mais en fait, tout ce qu'on a dit dès le départ, c'était des mensonges, ce n'était pas la vérité.
L'attaque, selon M. Savadogo, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un putsch militaire, le deuxième en 8 mois au Burkina, a balayé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Le capitaine Ibrahim Traoré est désormais le maître des lieux. Pour éviter la famine qui guette Djibo, où vivent environ 300 000 personnes, dont une majorité de déplacés, la ville a été ravitaillée par l'armée en hélicoptère. 70 tonnes de nourriture y ont été acheminées pour pallier l'urgence.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, les banques et les promoteurs culturels se mettent ensemble pour lutter contre la précarité des artistes musiciens. 20 jeunes artistes sélectionnés ont été formés à l'entrepreneuriat et à la gestion des revenus de leur carrière. C'est une initiative de la fondation de la caisse d'épargne allemande Sparkasse avec le soutien d'une banque camerounaise. Ce projet dénommé Koulia suscite beaucoup d'espoir auprès des bénéficiaires. À Yaoundé, retrouvons notre correspondant Emmanuel Gilta.
Daniel Ondobo est coach vocal depuis 3 ans. Il est l'un des jeunes artistes ayant été formé à l'éducation financière et entrepreneuriale dans le cadre du projet Koulia. Au domicile familial à Douala, il s'est lancé désormais dans l'élevage des poussins.
Les artistes sont des personnes qui dépensent beaucoup de l'argent, mais pas toujours dans ce qui est utile. Il nous a amené à prendre des décisions, mais de façon progressive. Il ne faut pas aller te lancer dans quelque chose qui va pas te rapporter de l'argent, juste pour qu'on te voit, par exemple. Donc, Koulia m'a amené à prendre cette conscience et à me lancer dans quelque chose qui est productif.
Miss Diallo réside aussi à Douala. Grâce au financement d'une banque locale, partenaire au projet, sa chanson a été mise sur certaines plateformes digitales comme AfroTune. Une grande première pour elle après 7 ans de carrière.
On cherche à soulever la tête, donc on a de l'espoir, on est équipé, mais on ne peut pas faire ça de nous-mêmes. Donc on exhorte nos frères, nos sœurs, les passionnés de streamer pour que nous puissions produire des bonnes choses.
À Yaoundé, le jeune artiste Sientier Koro a été également retenu dans le cadre du projet. Défenseur de la nature, Sianti rêve désormais grand.
L'accompagnement de l'initiative Koulia nous a permis d'avoir un crédit bancaire et d'enregistrer dans des studios professionnels. Et maintenant, j'ai une chanson enregistrée dans des studios professionnels disponibles sur les plateformes aujourd'hui et qu'on peut écouter en streaming ou télécharger partout dans le monde. Cette exploitation que les gens feront de mes œuvres va permettre que je puisse me faire de l'argent.
La cérémonie de lancement de la chanson collective dans laquelle interviennent les 20 artistes sélectionnés a eu lieu à Yaoundé. Écoutons la créatrice et directrice du projet Koulia, Isabelle Antounès.
À travers une meilleure éducation financière et entrepreneuriale, ils peuvent prendre leur carrière en main. Et ils peuvent devenir des entrepreneurs, ils peuvent se mettre à même employer des gens. C'est-à-dire ça peut être l'émergence des micro et petites entreprises en Afrique grâce aux musiciens.
De nombreux artistes camerounais ont achevé leur carrière dans la précarité. L'artiste Mista Léo, l'une des vedettes de la musique camerounaise, a parrainé les jeunes artistes du projet Koulia durant leur formation. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a gracié jeudi des milliers d'Américains condamnés au niveau fédéral pour simple possession de marijuana. Joe Biden a invité le gouverneur des États américains à suivre son exemple. Pour les enjeux et les implications de ces décisions, Jean-Roger Bion a joint en Virginie l'avocat de défense criminelle John Katz.
Ça c'est bien important, ça c'est un sujet des droits civils. Ça c'est bien important parce que le marijuana, ça c'est pas plus dangereux que l'alcool. C'est bien important d'apprendre des gens qui possèdent le marijuana.
Alors, les détracteurs du président disent que c'est pour des visées électoralistes puisque les élections de mi-mandat approchent en novembre. Qu'en pensez-vous?
Je le doute parce que maintenant, le président a l'information de Virginie, de Washington et aussi de Maryland que quand des gens fument le marijuana, quand c'est pas un crime, c'est pas un problème avec la société et c'est pas une bonne idée à utiliser l'argent pour prendre des gens pour la possession de marijuana dans la cour criminelle.
Alors, le président avait une autre opinion sur la marijuana il y a quelques années. Pourquoi il a changé de cap?
Beaucoup de politiciens changent la vie. Par exemple, en 1995 ou 1994, j'ai parlé avec le sénateur Bernie Sanders et j'ai demandé à lui pour supporter à légaliser la marijuana. Autant là, il n'est pas prêt à le faire, mais maintenant il le fait.
Les statistiques disent que 6500 personnes ont été condamnées entre 1992 et 2021 pour la possession du cannabis. Est-ce que ça ne va pas générer des problèmes de criminalité, puisqu'actuellement, c'est que la criminalité est en hausse?
C'est bien important que des gens qui fument le marijuana n'ont pas de problème avec la situation de sécurité plus que s'ils boivent l'alcool. C'est pas plus dangereux que l'alcool. Nous ne mettrons pas de gens dans la prison pour user l'alcool. S'ils ne conduisent pas avec ça, c'est la même chose avec marijuana.
C'était John Katz, l'avocat de défense criminelle dans le comté de Fairfax, en Virginie.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnon, à la présentation, Abdoul Khmadia. Et c'est dans le monde aujourd'hui. On reste en contact sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.